La foi nos 26. Quel est le centre d'attention de votre foi?
Le 20 août 2017.
Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, je voudrais focaliser notre sermon sur où concentrez-vous votre foi. Fr. Branham dit dans son sermon, le chef-d'œuvre 64-0705 au paragraphe 10 sort. Nous devons trouver un endroit où faire reposer notre foi. Maintenant, poursuit-il, nous pourrions faire reposer notre foi à gagner des millions de dollars. Mais qu'allons-nous en faire? Nous n'y pouvons pas les emporter avec nous. Alors quel bien cela fait vraiment? Il dit, et si moi ou n'importe lequel d'entre nous, dans la vie, nous cherchions à réussir dans la vie, et que nous devenions bien des fois multimillionnaires, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Il nous faudra arriver au bout du chemin. Et à quoi est-ce que ça va nous servir à ce moment-là? Voyez? Et l'argent? C'est-ce un titre provisoire? C'est-ce un moyen d'échange? Mais on ne peut pas l'échanger contre la vie. Dieu seul possède la vie. Maintenant, c'est la vraie question que nous devons nous poser ce matin. Il a dit, nous devons placer notre foi quelque part. Donc, la question que je vous pose ce matin, où placez-vous votre foi? La parole de Dieu nous promet que toutes choses concourront au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tellement de fois, nous manquons de voir Dieu en manquant de voir ce qu'il fait dans les petites choses de nos vies. Il semble que nous nous concentrons tellement sur les grandes choses, les choses grandioses, les choses extraordinaires, mais nous savons que Dieu se cache dans la simplicité, et nous en témoignons même, et pourtant quand il s'agit de notre propre vie, il semble que nous avons nos pensées ailleurs que sur les petites choses. Mais les saintes écritures nous disent que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes, et ce sont les petites choses qu'on n'y fait pas qui nous défont. Et c'est dans les petites choses que Dieu se fait connaître. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu dit 28 novembre 65 96. Vous devez être fidèle en tout, jusque dans les moindres détails. C'est toujours la petite vigne, le petit renard qui ravage la vigne. Parfois vous laissez. Ce qui compte, ce sont pas les grandes choses que vous faites, ce sont les petites choses que vous faites pas. Rappelez-vous, la force d'une chaîne se mesure par son maillon le plus faible. Heureux sont ceux qui accomplissent tous les commandements de Dieu, parce qu'ils auront le droit d'entrer. Faites tout ce que Dieu a dit. Si l'Esther dit que les femmes portent de longs cheveux, dites. 97 Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, moi, je n'ai prêche pas une religion de corde à linge. 98 Je lui ai répondu, alors, vous n'ai prêchez pas l'évangile. C'est vrai. Eh bien, qu'en est-il de ceux qui refusent de prêcher Jean 14.12 tel que Jésus l'a prêché? Et dans chaque langue. C'est traduit quiconque croit. Maintenant vous avez la version anglaise du roi Jacques qui dit hébreu, Dan Believ, il, qui croit. En français mot pour mot. Note du trad. Mes frères Branham, le prophète de Dieu, nous a dit qui est à ce hébreu, il, en français. Il nous a enseigné que c'est chaque croyant. Ce n'est sont pas mes mots, ce sont ses mots à lui. Frère Branham montre clairement que Jean 14.12. C'est pour chaque croyant comme nous le voyons dans question et réponse 59-0628-172-88b. Remarquez. Il lit une question que quelqu'un a posée sur Jean 14.12 puis il répond à la question. Frère Branham, est-ce qu'un homme peut faire les œuvres de Christ sans qu'il n'ait mis soit Christ? Voilà ce que c'est, sans qu'il n'ait mis soit Christ? Certainement. Prenons Saint Jean, juste une minute. Saint Jean le 14e chapitre, et je veux que vous observiez cela. Maintenant, si vous pouvez le prendre rapidement. Saint Jean 14.12. Je crois. Nous allons faire les choses rapidement et voir ce que Jésus a dit à ce sujet. Très bien, en vérité, je vous le dis, celui, qui que ce soit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. N'importe quel homme, l'homme lui-même né ne peut pas être Christ, mais les œuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez, il fera les œuvres de Christ dans n'importe quel homme. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Non pas, je ferai, il fera. Il, non pas, je, mais il croit en moi et a confessé sa foi en moi et il est mort à lui-même et mon esprit habite en lui et il devient une partie de moi. Maintenant cela n'est fait pas de lui Christ. Cela fait de lui une partie de Christ avec le reste de l'Église. Très bien. Il n'estère pas Christ, parce que ce serait anti-Christ, vous voyez. Il ôterait à Christ. Mais il peut être, faire les œuvres de Christ, n'importe quel croyant. Très bien. Voilà ce qu'il a dit à propos de Jean 14.12. Alors, si c'estère la vérité, et nous savons que c'estère la vérité, parce qu'elle a été enseignée par un prophète confirmé, pourquoi cette vérité est-elle ignorée? Pourquoi l'esprit d'adoption, la manifestation des fils de Dieu, et d'être semblable à l'image du fils premier-né, est-elle oubliée? C'est le recèlement qui a dit dans le Cantique des Cantiques 2.15, prenez-vous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Permettez-moi de continuer à lire la citation de frère Branham dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu dit 28 novembre 65 M 99. Dieu l'a exposé là. Il a dit ce qu'il fallait faire. Et, ou bien vous le faites. C'est-ce pour vous une chose naturelle, raisonnable? Quelle petite chose? Quelle? La petite chose insignifiante. Jésus a dit, heureux sont ceux qui considèrent toutes ces petites choses et qui les pratiquent. Et, pour une femme, laisser pousser ses cheveux, c'est-ce juste une bien? C'est-ce juste une chose qu'elle peut faire, mais qu'elle n'aime veut même pas faire. Elle n'aime veut même pas faire cela. Sans haut, enseignez-nous de grandes choses. Sans et comment pourrait-on vous enseigner de grandes choses? Alors que vous n'aimez voulez pas faire les choses simples et ordinaires? C'est-ce que, vous voyez, vos motifs et objectifs sont faux. Quoi? Ce sont les petites choses qui trahissent ce que sont véritablement vos motifs et vos objectifs. Comme frère Vell me l'a dit quelques semaines avant sa mort, Brian, nous connaissons les doctrines, mais les gens doivent avoir la vie s'ils veulent y arriver. Tu dois prêcher la vie. Jésus a condamné les pharisiens parce qu'ils connaissaient la doctrine, mais ils ont omis de faire les choses simples de la vie. Dans son sermon, Les portes dans la porte Sam 6 février 65 82 frère Branham dit, mais ce n'est pas le cas avec notre roi et nous. Oh! La toute petite chose que nous faisons, il voit cela. Et il connaît même les choses et les pensées de nos cœurs. Tout ce que nous faisons, peu importe combien c'est minime. Et comment le servons-nous? En nous servant les uns les autres. Si je n'aime et vous aime pas, vous, comment puis-je l'aimer? Lui, voyez, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voyez, 83 ce sont les petites choses que nous négligeons parfois de faire, qui brisent toute la chaîne, voyez, et nous amènent dans le relâchement. Nous soucions juste de notre dénomination, oubliant ces petites choses qui sont en fait des choses essentielles. tout. Chaque parole de Dieu est essentielle. Rien n'est mis, peut être laissé de côté. Il nous faut prendre chaque parole de Dieu, telle que cela est écrit. Nous avons prouvé dans notre étude de Jean 14.12 que le mot original grec était « quiconque » et dans toutes les langues. C'est écrit de cette façon. C'est l'arrogance des anglophones qui disent « la version autorisée », celle de la Bible du roi Jacques, est la seule qui soit juste. Toutes les autres sont fausses. Alors, cela m'apporte le salut pour chaque enfant de Dieu dans chaque nation sur terre qui parle anglais. Et puis j'ai entendu certains dire, vous devez connaître l'anglais pour comprendre le message. Oh! Bonté divine! C'est si loin de la vérité. Il y a des millions de personnes qui savent lire et écrire en anglais qui n'ont aucune idée de ce dont parle le message. Vous devez avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce message. Car l'apôtre Paul a dit, personne n'émis peut comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Jésus enseignait la même chose quand il a dit, si vous n'éminaissez pas de nouveau, vous n'émis pouvez voir ce qui signifie comprendre le royaume de Dieu. En français, le mot anglais hébreu Esther traduit par il, mais l'allocution il qui croit en moi Esther traduit dans la Bible française par celui qui croit en moi et le mot il n'y Esther pas du tout utilisé, mais le mot celui qui signifie quiconque, qui n'Esther donc pas singulier, mais signifie que la promesse Esther est adressée à des individus qu'il y Esther un ou plusieurs, mais elle n'est mis par le pas d'un seul. Nous voyons la même règle dans la Bible espagnole. Jean 14.12 L, que crée en Miché qui se traduit par quiconque croit en moi traduit littéralement. Celui qui ou qui que ce soit, qui est qu'une Esther pas singulier mais peut en inclure un ou plusieurs. La Bible de Luther se lit ainsi, War en Mich Globe. Esther traduit quiconque croit en moi. La Bible italienne, Chicredin me Esther, traduit quiconque croit en moi. La Bible portugaise, Acle que crée mime, traduit quiconque croit en moi. La Bible suédoise de 1917, Den som tror på mig, traduit quiconque croit en moi. La Bible hongroise, Akis benem, traduit quiconque croit en moi. La Bible norvégienne, Den som tror på mig, traduit quiconque croit en moi. La Bible polonaise, Tovias iwmi, traduit quiconque croit en moi. La Bible russe, Kto veriv et manja traduit qui croit en moi. La Bible d'Ukraine, Kto veruv et men traduit quiconque croit en moi. La Bible swahili, Mtuyota kinyamini traduit quiconque croit en moi. La Bible bulgare, Kojto vjavav et men traduit qui croit en. La Bible danoise, Somdror pamik signifie qui croit en moi. Nous pourrions continuer indéfiniment et donner de nombreux autres exemples. Mais vous découvrirez qu'il y a partout dans le monde des Bibles qui disent la même chose, sauf pour la version du roi Jacques et quelques versions qui ont pour référence la version du roi Jacques, qui utilise le mot « il » mais même cela n'en fait pas un singulier. Par conséquent, voyons d'autres traductions anglaises. La version amplifiée, « Si quelqu'un croit fermement en moi » la Bible anglaise courante, « Quiconque croit en moi » La version anglaise standard, quiconque croit en moi. La traduction de Wycliffe, si un homme croit en moi signifiant tout homme qui croit. La nouvelle traduction vivante, quiconque croit en moi. Le message, la personne qui me fait confiance signifiant toute personne qui croit. La traduction de la parole de Dieu, ceux qui croient en moi. Le Nouveau Testament de l'anglais universel, la personne qui croit en moi. William Branham était très clair. Que quand Jean 14.12 dit celui cela, signifie, n'importe qui croit. Dans son sermon, Christ Esther le mystère de Dieu, Reveldim 28 juillet 6325 la Bible a dit qu'il Esther le même. Saint Jean 5, ou Saint Jean 14.12. Il a dit, celui. Celui. Quiconque. Celui qui croit en moi. Les œuvres que je fais. Il les fera aussi. Frère Bell a cité Michener, qui a dit, quand le langage perd son sens, il n'y reste plus rien. Et quand les hommes tordent le sens des mots pour protéger leur doctrine, cela montre qu'ils n'ont aucune compréhension réelle de la doctrine qu'ils prétendent tenir. William Branham était très précis dans le choix des mots concernant Jean 14.12. Dans son sermon, Christ Esther le mystère de Dieu Reveldim 28 juillet 63 274 Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Maintenant, où est-ce ce qu'on est-ce? Oui. Oui. Voyez? Oui. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Chaque créature, chaque personne qui croit en lui. Maintenant où est-ce ce qu'on est-ce? Ce sont ses paroles. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne m'y faillira jamais. Maintenant, ce sont les petites choses qui sont laissées de côté, qui empêcheront les gens de prendre part à l'enlèvement et au changement de leur corps. Dans son sermon, messieurs, nous voudrions voir Jésus mort 26 février 57. William Branham nous dit ce pourquoi Jean 14.12 est-ce pour tous, et quel en est-ce l'objectif. 21 mai maintenant, pendant qu'il est-ce ici opérant avec son Église sous la forme de l'Esprit. Alors, si son Esprit est-ce avec nous, il agira exactement comme lui agissait lorsqu'il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce que ce n'est plus votre esprit, c'est son esprit en vous. L'esprit de Christ en vous. Les choses que je fais. Celui qui croit en moi, Saint Jean 14.12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous? Nous ferons les mêmes œuvres. Nous aurons les mêmes pensées. Nous mènerons le même genre de vie. Si l'Esprit de Dieu est en vous, il vous fera vivre comme Christ, vous serez comme Christ. À ce moment-là, vous devenez une épître écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant sa lumière en vous. De même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et que Christ reflétait Dieu à partir de son propre corps. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père l'a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu'était l'attitude de Christ, c'était l'attitude de Dieu, parce que les deux œuvraient ensemble, l'esprit et la chair étaient unis. Quand Élie voulut entendre Dieu, il pria Dieu avec ferveur pour obtenir une réponse, puis vint un éclair, Dieu n'était pas dans l'éclair. Puis vint un tonnerre, Dieu n'était pas dans le tonnerre. Puis la terre trembla. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint un tourbillon de vent comme une tornade. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Et dans aucune de ces deux grandes choses, il n'y mit trouva Dieu. Dans aucune de ces choses. Mais quand vint à lui ce murmure doux et léger, il sut instantanément que Dieu lui parlait et qu'il devait rester tranquille pour entendre la voix de Dieu. Dans son sermon Une vie cachée je 6 octobre 55, P. Frère Branham dit, 44 qu'est-ce qui faisait croître la semence? Vous êtes-vous déjà levé le matin pour voir la rosée tomber du ciel et rafraîchir la terre? Comment rafraîchit-elle la terre? C'est-ce lorsque celle-ci est-ce dans le calme. La rosée Néhémie tombe pas pendant la journée. La rosée tombe pendant la nuit, quand tout est calme. La rosée Néhémie peut pas tomber sur vous. Mon frère, tant que vous vous disputez, vous vous querellez et vous avez des soucis au sujet des choses d'ici-bas. Mettez-vous à l'écart seul à seul avec Dieu, et laissez les gouttes de la rosée de miséricorde de Dieu tomber sur vous dans le calme. Et il dit dans son sermon, l'influence d'hymne 15 mars 6431 soyez toujours conscient de votre petitesse, pas de votre grandeur. 132 aujourd'hui, nous les Américains, tellement. En effet, nous cherchons à nous convaincre d'être quelqu'un de grand, nous sommes membres de quelque chose de grand, d'une grande organisation, d'un énorme quelque chose qui a on énorme, grand, grand, c'est-à-dire tout ce que nous voyons. 133 Et lorsque nous en avons un exemple dans la Bible, c'est-à-dire arrivé une fois. Il y avait un prophète qui s'était retiré dans une caverne et Élie. Et Dieu chercha à attirer son attention pour qu'il en sorte. Il vint du feu, de la fumée, des vents violents sur les montagnes, des tonnerres aussi, des tremblements de terre, des secousses et tout le reste. Le prophète n'était point ébranlé. Dieu n'y était même pas. Mais lorsque ce murmure doux et léger s'est fait entendre, il se couvrit la face et s'avança. Quand ce murmure doux et léger de la parole de Dieu parle, pas un vacarme, pas nos grandes dénominations, pas quelque chose de grand, mais ce murmure doux et léger de la parole qui est à négliger, cela doit appeler un homme à la repentance. Dieu dans ses paroles. 134 Cependant, il s'est couvert les pieds et est devenu conscient de ça, de notre petitesse devant Dieu. Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De Néhémie vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela signifie que vous pourrez tester et approuver ce qui est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Et c'est ce que Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Oh! Avoir cette attitude de condition de fils qu'il avait. Puis Paul dit, trois par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Écoutez, nous avons chacun reçu une mesure de foi et nous savons que la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé. Ensuite, si cela vous a été révélé, alors, comment ces prédicateurs et ces anciens peuvent-ils être tellement enflés d'orgueil comme s'ils étaient parvenus là par eux-mêmes? Vous n'avez absolument rien à voir avec ce qui s'est passé en cette heure. C'était un don de Dieu pour nous. Dieu est descendu, a fait sortir la morve de William Branham, a pris contrôle de lui, et l'a utilisé, et ensuite vous dites, oh, je désire certainement être comme lui. Non, vous Néhémie le désirez pas, parce que vous Néhémie voudriez pas endurer, parce qu'il a enduré pour y parvenir. Soyez simplement reconnaissant que Dieu est le chef et le consommateur de votre foi. Faites confiance à ce qu'il fait et mettez-vous simplement hors de son chemin. Apprenez simplement à lâcher prise et à laisser faire Dieu. Et vous savez, il y a une chose qui me dérange plus que toute autre chose au monde quand je voyage et que j'enseigne la doctrine de Christ aux ministres, ici, aux États-Unis, et à l'étranger, c'est quand je vois des hommes, dans le ministère, devenir prétentieux et se croire importants parce qu'ils ont un peu plus de connaissances sur un sujet que d'autres ministres. Un de mes amis m'a dit une fois que si vous avez une once de plus de connaissances sur une matière qu'une autre personne, vous avez le dessus sur cette personne, et c'est absolument correct si vous êtes charnel. Et c'est ce qu'ils font dans les églises aujourd'hui. Et tous les ministres sont enflés d'orgueil. Et Dieu n'est pas venu pour des enfants enflés d'orgueil. Il est venu pour des fils et des filles de Dieu obéissants. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce ce que vous avez qui Néhémie vous a pas été donné? Et si cela vous a été donné, alors pourquoi vous vantez comme si vous Néhémie l'aviez pas reçu? Et il a aussi dit dans Romains 3.27 où donc est le sujet de se glorifier? il Esther exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. 28 Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Et si vous êtes justifié par la foi et que la foi est une révélation, quelque chose que Dieu vous a révélé, alors vous Néhémie l'avez pas compris parce que vous êtes plus intelligent qu'un autre, et vous Néhémie l'avez pas compris parce que vous avez plus de gens qui vous suivent qu'un autre. Vous avez la révélation parce que Dieu vous l'a révélé. Alors soyez humble parce que ce sont les petites choses que vous laissez de côté qui causeront votre perte. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14.36 Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? Ou est-ce vous seul qu'elle est-elle parvenue? 37 Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Or, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2.11 lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, si Dieu n'aimé vous donne pas son esprit, vous n'auriez rien. Donc, soit vous avez soit vous n'avez pas, tout se résume à ce que Dieu fait. Et puis, si vous avez quelque chose, c'est parce que Dieu vous l'a donné, alors comment pouvez-vous être aussi hautain au point de vous vanter alors que vous n'avez rien à voir avec cela? Pour commencer, sauf que vous êtes juste un vase dans lequel Dieu a choisi de mettre sa parole. Dans son sermon, le messager du soir mer 16 janvier 63 frère Branham dit, 212 remarquez, de grands bruits, mais ça n'a pas attiré l'attention du prophète. Le prophète n'a pas fait attention à ces grands bruits. Mais quand il a entendu ce doux et léger murmure, il sut que c'était la parole. Il se voila le visage et sortit. 213 Vous savez, le soleil fait s'évaporer plus d'eau en 15 minutes, sans aucun bruit du tout, plus que tout. Et nous, nous faisons plus de bruit en évaporant un gallon, environ 4 litres-n.d. d'eau que le soleil n'en fait en faisant s'évaporer 1 million de barils. C'est vrai. Nous cherchons toujours quelque chose de grand avec beaucoup d'eau et où il y a du boucan. Mais quand on en vient au fait de prendre la parole, alors voilà qu'apparaît la chose. Vous voyez, les gens viennent et disent, eh bien, que Dieu soit béni, je vous assure. Maintenant, comme je l'ai lu plus tôt dans ce sermon, frère Branham a dit, nous devons placer notre foi quelque part. La question est donc de savoir où placer notre foi. Nous savons que la foi est une révélation, parce que frère Branham nous l'a dit dans plusieurs de ses sermons à la fin de 1965. En commençant par le sermon, les faux oins. Et dans son sermon, les oins du temps de la fin 65-07-25 M. frère Branham dit, 53 qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Donc, par révélation. 54 Et les églises d'aujourd'hui Néhémie croient même pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d'un système quelconque. Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Amen. J'espère que vous voyez ça. Vous voyez où nous vivons? Vous voyez l'heure? Maintenant, je veux que vous remarquiez l'exemple que frère Branham nous a donné. Il a cité Hébreux 11.4 Sester par la foi, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Sester par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et Sester par elle qu'il parle encore. quoique mort. Maintenant, remarquez que l'on nous dit que le sacrifice d'Abel était un sacrifice plus excellent que le sacrifice de Caïn. Alors le sacrifice de Caïn devait être un excellent sacrifice si celui d'Abel était un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et pour être plus excellent, l'autre doit également être excellent. Et le sacrifice de Caïn était un excellent sacrifice parce que c'était Deutéronome 26. Les prémices de tous les fruits. Le sacrifice de Caïn était donc très scripturaire. Par conséquent, Caïn était un croyant fondamentaliste. Deutéronome 26.1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Maintenant, remarquez que Caïn a offert à Dieu une offrande des premiers fruits qui était une offrande de la moisson ou une offrande de la résurrection. Parce que la récolte représente le moment de la résurrection, lorsque les moissonneurs viendront récolter la récolte. Mais remarquez que la révélation de Caïn est hors saison, car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et il n'y aura pas de résurrection à la vie sans le sacrifice d'une fois pour toutes, de sang. Donc, le sacrifice de Caïn, bien qu'excellent, parce qu'il était biblique, mais comme il était hors saison, il n'a pas été accepté par Dieu. Et quand Caïn a eu un fils, il l'a appelé Enoch. Mais cet Enoch n'était pas l'Enoch qui était la septième génération d'Adam. L'Enoch qui était la septième génération d'Adam a été ordonné à être pris lors du tout premier enlèvement. Mais Caïn était un fondamentaliste. Il croyait aux Écritures qui, à cette époque, étaient les seules Écritures écrites dans les cieux. Il pouvait les lire dans les étoiles comme Adam et comme tous ceux qui vivaient à l'époque ont appris à le faire. Mais on nous dit dans 1 Jean 3, que Caïn a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. 1 Jean 3.11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est-à-dire que nous devons nous aimer les uns les autres. 12 Et Néhémie par ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Maintenant, remarquez, cela nous dit que le meurtre de son frère s'est produit parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Et quelles étaient ces mauvaises œuvres? Le même apôtre qui a écrit cet épître a également écrit l'évangile selon Jean, et il a dit dans Jean 3.19 et ce jugement s'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'y viendront pas à la lumière parce qu'ils pensent avoir une meilleure compréhension de la parole. Alors, il a offert à Dieu un excellent sacrifice, et cependant il a été qualifié de mauvais par l'apôtre Jean parce que c'était une parole pour une autre saison. C'est hors saison. Et ce même Jean dit que le message de Dieu est amour. Caïn n'était donc pas un adepte du message de Dieu parce qu'il a tué son frère. En fait, si vous observez l'esprit qui était sur lui, vous verriez cela. Comme Dieu n'a pas accepté son sacrifice, il s'est mis en colère et a tué son frère. Vous voyez, votre sacrifice résulte de ce qui vous est révélé. Et vous devenez votre révélation. Abel a offert à Dieu un agneau mourant et sanglant. Et il est devenu exactement cela. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ 65-1125 frère Branham dit, 160 qu'est-ce qu'une révélation? Jésus a dit, sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts Néhémie ne prévaudront pas contre elle. Une révélation? C'est la foi? parce que la foi vous a été révélée. 161 Sester par la foi qu'Abel offrit, par révélation, par la foi, qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. 162 Caïn pensait qu'ils avaient mangé des pommes. Les gens ont encore cette idée-là aujourd'hui, mais ce n'était pas ça. C'était un adultère, la semence du serpent. Et là, l'ouverture des sept sceaux l'a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Nous en avons, je pense, 1000 exemplaires ici, maintenant. Voyez, remarquez. Sester selon l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. 163 Au temps de la fin, les deux arbres arrivent au stade de donner leurs semences, et démontrent ce qu'ils sont. Paul a dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, à quoi cela me sert? Et remarquez que les œuvres de Caïn n'étaient pas une expression d'amour, car quand il a eu l'occasion de faire le bien, il a rejeté et a tué son frère, pour le mettre hors compétition de l'attention de Dieu. Et combien de prédicateurs ont fait la même chose en 7 heures? Quand ils savent qu'ils n'ont pas toute la vérité, ils attaquent l'homme qui possède la vérité et essayent de tuer son influence. Maintenant, cela ne vous rapprochera jamais de Dieu. Alors pourquoi feriez-vous quelque chose de pareil? Frère Branham dit dans son sermon « Les œuvres sont la foi exprimée 65-1126-117 parmi tout un auditoire. Lorsque la ligne de prière défile, vous en trouverez certains. Et tous seront de braves gens, dirons-nous. Il y en a certains qui font de grands efforts pour y croire. Ils essaient d'y arriver par leurs propres efforts. Certains n'y arrivent pas du tout. Et d'autres, par la grâce, ça leur est tout simplement donné. Maintenant, voilà la différence. Voyez, c'est ça qui produit le résultat. La vraie révélation, c'est ça, parce que la foi est une révélation venant de Dieu. Il faut que ce soit premièrement révélé. Et dans l'enlèvement 65-1204 frère Branham dit, 65 mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé, la véritable épouse de Christ, attendra cette révélation de l'enlèvement. 66 Esther une révélation, car la révélation Esther la foi. Vous Néhémie pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi Esther une révélation, parce que c'est Esther quelque chose qui vous est révélé. La foi Esther une révélation. La foi, c'est Esther quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. C'est-à-dire cela qu'est-ce la foi, c'est-à-dire la révélation de Dieu. L'Église est-elle bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est-elle. Par conséquent, comme nous avons pris pour texte, ce matin, là où frère Branham a dit dans son sermon le chef-d'œuvre, nous devons placer notre foi quelque part. Donc, la question que je veux que vous considériez ce matin, c'est où placez-vous votre foi? Dans quoi placez-vous votre foi? Parce que cela vous dira où vous allez. Vous voyez? Si vous avez la foi, alors il doit y avoir une attente accompagnée d'un fervent désir. Et s'il en est ainsi, alors qu'est-ce ce que vous attendez avec un fervent désir? Quelle est votre espérance? Et s'il y a espérance, cette espérance se manifestera par ce que vous faites. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 2.8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela n'est vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, parce que ce n'est-ce pas ce que nous avons fait mais ce qu'il a fait pour nous. Et c'est-ce pourquoi ce même apôtre pouvait dire dans Romains 8.24, car c'est-ce en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est-ce plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? 25. Mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Martin Luther nous a enseigné, l'espérance dénote une attente des plus intenses. L'espérance, qui naît grandie de l'envie pressante de ce qui est grandement désiré, rend l'amour toujours plus grand par la distance même qui l'en sépare. Grâce à une telle espérance si tendue, il est créé, pour ainsi dire, une unité entre celui qui espère et ce qu'il espère. C'est donc l'espérance qui nous unit à ce que nous voyons par la foi et non par la vue. Et Paul a dit que si vous le voyez, vous n'aimez l'espérer plus. Si vous le voyez, vous n'aimez l'attendez plus avec un fervent désir comme s'il n'était pas là. C'est pourquoi l'espérance nous unit à notre foi dans l'invisible. Ce que l'on aime y voit pas, et cependant, dans l'espérance, nous attendons avec un fervent désir ce qui n'est pas encore visible ou manifesté. Et comme frère Branham l'a dit, votre foi doit avoir un endroit où il se concentre. Il a dit, nous devons placer notre foi quelque part. Car là où vous placez votre foi, c'est là que vous attendez avec un désir fervent. Dans question et réponse 1-54-0103 frère Branham dit, 77 maintenant remarquez, alors, quand ils ont été emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu'ils avaient cherché à imiter les nations du monde. Quelle belle image aujourd'hui, de l'Église qui cherche à imiter le monde, là-bas, et qui est emportée par le mode de vie de celui-ci. L'Église vit exactement comme le monde, se conduit, agit exactement comme le monde, et tout, alors qu'elle prétend être l'Église. Vous n'y pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. 78 ce que vous êtes. Comme je l'ai dit au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste, ou, votre corps terrestre est là-bas, ce que votre corps céleste est ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de choses dans le pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, de l'envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète ici. Mais si, jusqu'au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, ça montre que vous avez un corps là-bas, qui a été nettoyé et purifié. Et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez? N'est-ce pas? Vous voyez? Voilà. C'est ça. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez. Et dans Jairus et la guérison divine Marseille février 54 frère Branham dit, 37 le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant, un de ces jours, vous serez ceci. Vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez, maintenant, nous avons cela. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes. Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à lui. Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Est-ce vrai? Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf! C'est profond? N'est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c'est vrai ou pas. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous en avons déjà une qui attend. Est-ce vrai? C'est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c'est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c'est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Vous savez là où étant votre autre corps. Question et réponse 2-54-0103-E191. Ce que vous êtes ici. Maintenant retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication que vous êtes quelque chose d'autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous trouver dans la perfection. Vous, les chrétiens. Il existe une perfection, et cette perfection n'y se trouve pas, dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme ici qui sont chrétiens, chaque personne ici qui est chrétienne en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Vous n'y l'aurez pas à un autre moment, vous l'avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend, si celui-ci devait périr. Pouvez-vous concevoir cela? Étudiez cela pendant un instant. 192 Savez-vous que nous pourrions tous nous retrouver dans l'éternité avant que le soleil se lève demain matin? Or, si vous n'êtes pas chrétien, mon ami, il n'y a qu'une chose qui vous attend. Vous devrez forcément prendre cette direction-là. Si vous êtes sur ce chemin-là, vous devrez suivre ce chemin-là. Si vous êtes un grain de maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes un grain de tronc, vous produirez une vie de grain de tronc. Maintenant, si vous avez fait partie d'une église quelque part, où on n'émissait pas et où on n'enseigne pas, et où on se contente de vous laisser venir à l'église et être un membre d'église, vous dites, eh bien, frère Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si votre vie n'y correspond pas, vous n'y êtes pas encore. Par conséquent, si vous attendez avec un fervent désir ce que votre foi, votre révélation vous dit, alors votre vie le reflétera. Et vous vous concentrerez sur cela et votre attente sera concentrée sur cette seule chose. Et ainsi, votre vie sera consacrée à ce qui vous a été révélé. Et c'est ça le sacrifice. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est le sacrifice ultime ainsi que l'expression ultime de l'amour. Pour terminer. Nous prendrons Romains 12 et nous commencerons à lire au verset 1. Romains 12.1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La nouvelle version internationale dit, ce qui est de votre part un acte spirituel d'adoration. Et pourquoi cela? Parce que votre sacrifice est ce que vous offrez à Dieu en réponse à ce qu'il vous a révélé. Par conséquent, s'il vous a révélé que vous êtes fils, et que vous recevez votre transformation par le renouvellement de votre pensée ou intelligence, alors vous commencerez à agir selon le changement de votre pensée ou intelligence. Si vous dites que votre pensée ou intelligence a changé mais que vos actions n'ont pas changé, Alors vous vous mentez à vous-même parce que vous Néhémie mentirez pas à quelqu'un d'autre. Paul continue en disant, de Néhémie vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez donc que quand l'intelligence ou la pensée est renouvelée, elle apporte avec elle une conformité extérieure ainsi qu'un changement intérieur des désirs. Puis au verset 3, il dit, « Trois par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Permettez-moi donc de terminer ce matin en vous posant cette question, où est-ce placé votre foi aujourd'hui? Est-ce dans le fait d'amasser des trésors sur la terre, où la tonne et la rue détruisent? Ou êtes-vous en train de vous amasser des trésors dans le ciel, où la tonne et la ruine a émis détruisent point? Où est-ce placé votre foi aujourd'hui? Où se trouve votre révélation? Vous devez le savoir car cela se reflète dans la vie que vous vivez. Inclinons nos têtes et nos cœurs dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, décembre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.